On va commencer notre 38e leçon dans notre série sur le péché, les 10 commandements, la grâce. Nous allons voir aujourd'hui la souveraineté de Dieu, une introduction. Alors, la doctrine de la souveraineté de Dieu est fortement contestée de nos jours. Elle est, par conséquent, négligée, tordue ou incomprise. Cette doctrine est cependant tissée dans toutes les saintes écritures de façon incontestable. On peut le voir, par exemple, dans le premier chapitre d'Éphésiens, verset 11. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » On a aussi dans Ésaïe, chapitre 37, les versets 26 et 29. « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin ?» et que je les ai résolus dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Et dans le verset 29, « Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, excusez, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » On a également dans Lamentation, au chapitre 3, les versets 35 à 39. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est qu'on va chercher à définir la souveraineté de Dieu. Alors, on peut définir la souveraineté de Dieu de la manière suivante. C'est le fait que Dieu a, de toute éternité, décrété, décidé, choisi et déterminé, en conseil trinitaire, le cours de tous les actes et événements, sans exception, de tout l'univers et pour toutes les époques. Pour l'esprit humain, la souveraineté de Dieu est difficilement conciliable avec la liberté de l'homme. Cependant, la Bible enseigne clairement les deux. La conjugaison de ces deux vérités dépasse notre entendement. Elle fait partie des mystères que nous serons dévoilés dans l'au-delà, lorsque nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alors, j'ai trouvé un extrait d'article qui est tiré du web sur le site Promesse. Alors, c'est l'auteur Paul-André Dubois. Dans un article, il définit d'une façon un petit peu différente. Alors, il dit « Dieu est au-dessus de toute chose, visible ou invisible ». Et il utilise le verset 1, Chronique 29, verset 11. « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Alors sa volonté et son pouvoir sont absolus. Tout ce qu'il a conçu et décidé s'accomplira. Ceux qui lui résistent n'échappent pas à son empire, leur vie continue de dépendre constamment de lui. Derrière tous les événements, ordinaires ou extraordinaires, la main puissante de Dieu est à l'œuvre. Celle-ci ne se relâchera pas jusqu'à ce que tout genou fléchisse devant le Maître divin, soit dans l'adoration, soit dans le tremblement. Parce que rien ni personne ne saurait impunément défier Dieu, ce dernier se rit de ses adversaires. Au jugement dernier, les révoltes, les injustices et les blasphèmes de toute créature rebelle seront sanctionnés et toute bouche sera fermée devant le juge suprême. Alors, cet auteur fait également une sage mise en garde pour une compréhension éclairée. Alors, il commence par définir la souveraineté de Dieu, ce qu'elle n'implique pas. C'est très important parce que on peut donner à la souveraineté de Dieu des significations qu'elle n'a pas. Alors, Dieu n'agit pas. La première chose qu'on a besoin de savoir, c'est que la souveraineté de Dieu n'implique pas que Dieu n'agit pas arbitrairement. Alors, des passages bibliques comme le psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut », n'implique nullement l'arbitraire, le caprice, encore moins le despotisme. Contrairement aux dieux païens ou aux tyrans, Dieu ne recourt jamais à sa toute-puissance pour en mal user ou en abuser. Car s'il est vrai que Dieu agit selon le bon plaisir de sa volonté, selon Éphésiens chapitre 1, verset 5, et que personne ne peut le manipuler, il est également vrai qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, Éphésiens 1, 11, et sa volonté est toujours sage, éclairée et intelligente. Job, au sein même de l'épreuve, l'admettait. En Dieu résident la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. À lui, la sagesse et la toute-puissance. Alors cependant, son expérience nous apprend qu'il a parfois une grande distance, il y a parfois une grande distance entre la reconnaissance théorique de la souveraineté divine et l'acceptation des méthodes divines. C'est pourquoi, à la fin de ses tribulations, Job doit s'humilier pour avoir contesté le bien fondé de la stratégie divine à son égard. Il dit « Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. » Comme on peut le lire dans Job 42, verset 3b et verset 6. Heureusement pour lui, Job vient de faire en même temps un grand pas en avant dans la connaissance personnelle de son Dieu. Quand il dit dans Job 42, verset 5b, « Maintenant, mon œil t'a vu. » Alors, la première chose, la souveraineté de Dieu n'implique pas, c'est que Dieu agit arbitrairement. La deuxième chose, Dieu n'agit pas non plus injustement. La puissance sans limite de Dieu n'entraîne aucune atteinte à sa sainteté. Contrairement aux puissants de ce monde ou aux démons, Dieu maintient en parfaite harmonie puissance et justice. Dans la sphère des hommes, il faut plutôt reconnaître que la raison du plus fort est toujours la meilleure, ou bien, comme Pascal le disait avec ironie, « Ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on fait que ce qui est fort fut juste. » Dieu n'a pas à choisir entre la force ou la justice. Il dit dans le psaume 135, verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. » Alors, sans jamais se départir de sa parfaite justice. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même, comme on peut le lire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Alors, le psalmisme étant l'a fort bien résumé quand il dit, dans le psaume 89, verset 14 et 15, « Ta main est puissante, ta droite élevée, la justice et le droit sont la base de ton trône, la bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. » Alors, la troisième chose que la souveraineté de Dieu n'implique pas, Dieu n'approuve pas les actes répréhensibles, même quand ils servent à l'accomplissement de ses desseins. Alors, quelques exemples vont illustrer ce principe-là. En vendant Joseph aux Madianites, ses frères, mus par la jalousie et la haine, commirent un acte criminel. Les événements ultérieurs montrent toutefois que le plan de Dieu s'accomplit à travers ce drame. La présence de Joseph en Égypte contribua à sauver les siens de la famine. Pour autant, la parole ne laisse jamais entendre que Dieu ait approuvé le forfait ancien. Au contraire, il utilisa les circonstances pour amener les frères de Joseph à avouer leur faute et à s'en repentir. Un autre exemple, Shimei insulta grossièrement David jusqu'à le maudire, mais au lieu de se venger lui-même, David remit sa cause à Dieu, car il savait que celui-ci entend les propos malveillants et peut retourner la situation. Il dit par exemple dans 2 Samuel chapitre 16, verset 12, Peut-être l'Éternel regardera-t-il ma peine et me fera-t-il du bien en retour de sa malédiction d'aujourd'hui. » Alors le souhait de David fut exaucé. Quant à Shimei, il fut exécuté plus tard par un serviteur de Salomon. Un autre exemple, Dieu utilisa par exemple les Assyriens pour punir son peuple rebelle. Mais il déclara, « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère » dans Ésaïe chapitre 10, versets 5 à 16. Pourquoi cette condamnation? Il dit, « Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » Alors le Seigneur se sert d'un peuple pour amener une punition sur le sien, mais ça ne rend pas le peuple, parce que le Seigneur a utilisé ce peuple-là pour donner une correction à son peuple, ça n'excuse pas la faute de ce peuple-là. C'est comme on peut le voir dans le texte. Alors Dieu avait prévu et déterminé de toute éternité l'incarnation, le ministère et la crucifixion de Jésus-Christ. Ceux qui l'ont mis à mort ont néanmoins commis un crime infâme, inexcusable, dont Dieu les a tenus coupables. Dans la mesure où les instigateurs et les exécutants de ce crime ont reconnu leur faute, ils ont pu entrer dans le plan de grâce du Seigneur, être pardonnés et recevoir le Saint-Esprit, comme on peut le lire dans Actes 2, les versets 23-41. Alors la trahison de Judas était annoncée, elle était un élément du plan divin dans le psaume 41, verset 10, qu'on peut lire ça. Mais Judas a été néanmoins considéré comme coupable de son acte. Mais oui, il y a quelque chose de difficile à saisir là-dedans, parce que Dieu avait prévu qu'il y avait un homme qui trahirait Judas, un des disciples de Christ, et d'un autre côté, il rend l'homme responsable. Alors, la difficulté, c'est de se dire comment ça se fait, quelque chose qui est décrété. C'est comme l'homme ne devient pas une marionnette pour autant. Il garde toute sa responsabilité, c'est que le Seigneur, lui, il voit dans l'avenir, il savait le choix de Judas. Alors, c'est sûr que la souveraineté de Dieu, quand on se met à réfléchir à ça, ça l'amène des difficultés dans notre compréhension. Alors, en bref, les actes répréhensibles des hommes, même quand ils servent au dessein de Dieu, n'en sont pas justifiés pour autant, car Dieu ne peut rester indifférent ni au mobile de leurs auteurs, ni à leur état d'esprit. Et la quatrième chose que la souveraineté de Dieu n'implique pas, c'est que Dieu ne traite pas les hommes comme des engins téléguidés. Je me souviens, à un moment donné, on discutait de souveraineté à l'école biblique avec une personne, et il disait sa façon de voir ça, il disait toujours, « On n'est pas des robots, on n'est pas des robots. » Alors, c'est vraiment le... Dieu ne traite pas les hommes comme des engins téléguidés. C'est comme, oui, tout est décidé d'avance, mais on n'est pas comme des robots qui fait simplement exécuter ce que Dieu a voulu. On garde toute notre liberté, on garde toute notre responsabilité. C'est ça qui est un peu difficile à saisir. Alors l'homme n'est ni un robot, ni une machine. Dieu ne le manipule pas à son insu. Dès l'origine, l'homme et la femme ont été rendus responsables de leur choix. Ni Adam, Ève, ni Caïn, ses descendants, n'ont été prisonniers d'un déterminisme aliénant. Alors, déterminisme, ça veut dire que Dieu veut décider les choses qui se passeraient de telle façon. Alors, on est comme des robots, on exécute juste ce qu'il veut. Dieu dit qu'il a choisi les choses d'avance, mais en même temps, il dit qu'on est responsable. Des fois, c'est un petit peu difficile à concilier. Je dirais même que c'est impossible à concilier. Il y a juste par la foi qu'on peut croire ces choses-là, parce que Dieu dit les deux. Il dit qu'il a décrété, puis il dit qu'on est responsable. À quelque part, on n'a pas à expliquer, comme j'avais déjà lu, je pense que c'est Spurgeon qui disait, c'est comme une voie ferrée avec deux rails, et... ils sont parallèles, mais on va comprendre jusqu'à ce qu'ils vont se rencontrer au pied du Seigneur. J'aime bien l'image, parce que dans le fond, autrement dit, c'est que sur cette terre, essaye pas de comprendre et de concilier ces choses-là, parce que tu vas avoir des problèmes majeurs, mais la seule chose qu'on a à faire, c'est par la foi, croire ce que les Écritures nous disent. Alors, beaucoup rejettent ces doctrines-là, parce que à cause du fait que leur raison ne peut pas expliquer, alors ils rejettent. Mais c'est pas ça que les Écritures enseignent. Alors, lorsque la révélation orale, d'abord puis écrite, sous l'éclairage du Saint-Esprit, sont intervenues dans l'histoire, des choix ont été possibles. Et particulièrement le choix capital entre tous, celui qui consiste à se placer volontairement sous l'autorité et sous la grâce du Dieu Sauveur. Autrement dit, la souveraineté de Dieu ne s'exerce jamais au détriment de la responsabilité humaine, ni au détriment de la justice ou des décrets divins, ni en contradiction avec l'intelligence, la sagesse et la vérité qui caractérisent la nature de Dieu. Au lieu de nous en prendre au mystère de la volonté de Dieu et d'accuser celui-ci pour nous blanchir, prenons en exemple l'attitude du Péager de Luc, chapitre 18, versets 13 et 14, qui dit « Il se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais en se frappant la poitrine, il disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Alors la parabole souligne que Dieu se plaît à honorer cette disposition du cœur. Alors on a regardé un petit peu une définition. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est qu'on va chercher maintenant à l'expliquer. La première chose concernant la souveraineté de Dieu expliquée, c'est qu'on pourrait se poser la question « Pourquoi l'Éternel a-t-il le droit de régner? » On lit par exemple dans Apocalypse, chapitre 4, verset 11, « Parce qu'il est, bien entendu, le Créateur de toutes choses. » Alors le verset dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, on apprend aussi que non seulement il est le Créateur, mais que toutes choses lui appartiennent. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alors, la première question, il a répondu, on pourrait y répondre encore bien plus en détail que cela. Une autre chose concernant l'explication de la souveraineté de Dieu, quelle est la nature du pouvoir de Dieu? Alors, première constatation qu'on peut dire sur la nature du pouvoir de Dieu, c'est que son pouvoir est absolu. Alors, ça, rien n'y échappe. Psaume 103, versets 19 à 22. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, les versets sont clairs pour dire que, dans le fond, toute la création, quand on parle de l'Éternel des armées, que tout ce qui existe est en son pouvoir pour exécuter sa volonté. Psaume 135, versets 6 et 7. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers, et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Alors, non seulement il a le pouvoir, son pouvoir est absolu, mais il détient toutes les formes de pouvoir. Alors, on sait que sur la terre, en général, les pays sont organisés avec trois catégories de pouvoir. Pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Alors, c'est pas dans les mains du même personnage, parce que quand c'est dans les mains du même personnage, la personne en abuse. Alors, souvent, ici, on voit que Dieu a les trois pouvoirs. Juge, législateur et roi. Alors, dans Ésaïe, chapitre 33, verset 22, ça dit « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, L'Éternel est notre roi, c'est à lui qui nous sauve. Alors, lui seul a la capacité d'exercer ces trois formes de pouvoir-là. Et autre chose concernant la nature de sa souveraineté, il ne rend de compte à personne. Job, chapitre 33, verset 13, « Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? » Job 41, verset 2, « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Et autre chose à considérer concernant la forme, la sorte de pouvoir que le Seigneur a, aucune forme d'opposition n'est possible. On peut le lire dans Ésaïe, chapitre 14, versets 24 à 26. « L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main tendue sur toutes les nations. » Maintenant, autre question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'étendue de son règne? Alors, première constatation, première observation, Dieu règne sur tous les anges, bons et mauvais. Dans Hébreux, chapitre 1, versets 13 et 14, on voit qu'il règne sur les anges bons. Et quand il dit « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Alors, on voit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, avant même qu'on soit sauvé, Dieu déjà se servait des anges pour toutes sortes de raisons. Nous protéger probablement. Et aussi, les Écritures nous enseignent qu'il règne également sur les anges mauvais. Job 1, versets 6 à 12. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors, ce qui démontre de façon claire, il y a bien d'autres versets, il démontre de façon claire que même les anges mauvais, Satan lui-même, obéissent au Seigneur. Donc, Dieu règne sur les anges bons et mauvais. Maintenant, il règne aussi sur sa création. Ésaïe, chapitre 40, les versets 22 à 31. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant. Il fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe-t-il inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol, comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, on pourrait prendre une multitude d'autres exemples pour démontrer que Dieu règne sur la création. En général, maintenant, est-ce que Dieu règne sur les hommes? Bien entendu, la réponse est oui. Dans Jérémie, chapitre 10, verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Maintenant, autre chose qui est fortement contestée, mais qui est clairement enseigné dans les Écritures, c'est que Dieu est souverain sur l'attribution du salut. 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 et 9. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donné en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Alors, si ça a été donné avant les temps éternels, ce n'est pas l'homme qui a décidé, c'est Dieu lui-même qui a décidé. Jonas 2, verset 10, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Et on pourrait avoir beaucoup d'autres versets. Et maintenant, est-ce que l'Éternel règne sur nous, qui sommes ses saints, bien entendu? Romains 8, versets 28 à 32. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors on peut avoir plusieurs applications juste de cette très très brève étude de la souveraineté de Dieu. La première, en résumé, la doctrine de la souveraineté de Dieu est infiniment réconfortante. Premièrement, elle est conforme à la nature glorieuse de Dieu. Deuxièmement, elle détourne nos regards de la vanité, de l'absurdité, de la méchanceté, de l'impuissance et du désespoir qui constitue le fonds de commerce de l'humanité. Troisièmement, elle se dresse contre toute prétention hégémonique du diable. Autrement dit, je me souviens d'avoir déjà entendu, avec des discussions avec des chrétiens, dire que c'est Satan, parce qu'il y a des versets qui disent que tout le monde entier gît sous la puissance de Satan. Mais il ne faut pas prendre ce verset-là de façon absolue. Et la personne avec qui je discutais me disait, « Mais c'est Satan qui mène le monde. » Satan mène le monde parce que les Écritures le disent, mais c'est toujours que la main haute de l'Éternel est par-dessus. Et si on oublie ça, on fait une erreur monumentale, parce qu'on est en train de donner un pouvoir divin à Satan. Quatrièmement, elle nous offre une vision de l'avenir qui est dégagée du défaitisme. À l'heure actuelle, quand on regarde l'état actuel du monde, si quelqu'un n'a pas la foi, il est très certainement découragé parce qu'il ne voit pas d'issue possible. Alors que nous, les Écritures nous enseignent que Dieu est au contrôle de tous les événements de la terre, petits ou grands. politique ou individuel, et que tout cela mène vers un but et que ce n'est pas un but de défaitisme. Cinquièmement, elle nous permet d'envisager l'histoire comme un processus guidé par des lois rationnelles. Non, le monde n'est pas l'enfant du hasard. Sixièmement, elle nous fait voir nos épreuves et nos échecs sous un jour nouveau, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu fixe les limites de la tentation. Et septièmement, elle nous promet de nous reposer en Dieu. Elle nous permet, c'est-à-dire, de nous reposer en Dieu quant à l'aboutissement de notre propre parcours terrestre, puisque le Père Céleste nous tient fermement dans sa main pour toujours. Et deuxième application, dans la mesure où nous saurons reconnaître la souveraineté du roi de l'univers au gré de notre voyage ici-bas, nous serons heureux de nous ranger parmi ses sujets. S'il est mon souverain, j'accepte ce qui vient de sa main, et dans cette soumission loyale et filiale, je trouve la vie, la pleine bénédiction, la joie et la paix. Je peux vous dire une chose, puis je pense que vous le savez vous autres aussi, que ce n'est pas une leçon qui s'apprend du jour au lendemain. Ça prend du temps avant d'accepter tout ce que Dieu nous envoie comme venant de sa main et comme ayant un but, et de l'accepter vraiment sans ruer d'un brancard, en étant... c'est une leçon, ça prend du temps avant d'apprendre ça. Alors que notre grand, glorieux et souverain Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement.
Amen.